bonjour et bienvenue, vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, le supplément week-end, de suite après cette petite coupure publicitaire.
Il apparaît d'après les analyses opérées par notre propre ordinateur que les données qui lui ont été fournies sont incomplètes. On ne peut donc éviter de penser que le Haut Quartier Général a délibérément retenu des données capitales. Il m'est donc impossible de continuer à travailler à l'aveuglette sur un projet ayant un tel potentiel de destruction. Par conséquent, il ne me reste qu'une seule solution.
Bonjour, Pôle emploi à votre service.
Artistes et groupes de tout style, le Sick Me Up Tour 2012 débarque dans votre région. Vous avez du talent? Participez au tremplin musical numéro 1 du web et gagnez les 200 000 euros de dotation. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur le site zikmeup-tour.com et rejoignez-nous sur scène lors des 19 dates de sélection en live partout en France. Avec vous, le Sick Me Up Tour 2012 accélère les talents.
FMR 89.1, radioactif.
Non mais sérieux. Attends, ils m'ont laissé un mot, laisse impérativement passer la pub. C'était sérieux ça? Le 1er avril, c'est demain, je le sais, mais quand même, c'était sérieux ça? Waouh. Bon, eh ben, on va faire ça un petit peu tout seul, puisque Ultimatum n'est pas là ce week-end et du sport est à la bourre. Donc bonjour et bienvenue, vous écoutez Radio FMR. Nous sommes le samedi 31 mars 2012 et nos programmes pour cet après-midi, normalement à partir de 13h du sport pour les résultats sportifs, en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 14h sa partie musicale bien évidemment, à 15h ce sera du reggae avec normalement Jan Undead si je me trompe, et à 17h Radio FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur 89,1 MHz de la bande FM à Toulouse, mais continue bien évidemment en permanence sur www.radio-fmr.net. Mais dans l'immédiat, voici le commentaire du défilé du carnaval que vous attendez tous. Précédemment, dans le supplément week-end. Donc, en clair, leur famille leur a payé un voyage au Japon, et là, ils revendent le bouquin à leur famille et à leurs amis.
En fait, ça leur dispense de faire des séances diapositives, oui, t'as raison.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Das Creech et la participation exceptionnelle de JB. Non mais c'est à 7h06 que t'arrives. Ben non mais y a pas Thomas. Et en plus on me dit il passe une pub etc. La pub elle est moisie. Et en plus j'ai vu un autre email comme quoi on passe pas assez de chansons françaises. Ça va hein, tranquille et tout etc. Monsieur a son stock de disques. Arrivé là. Ouais vas-y tiens mets-les là. Justement à propos de disques on a le choix. Soit en interruption musicale on fout ma prank musicale. Soit on fout des trucs chopés au hasard dans la prog de la radio. Dus, tu décides quoi? Ce tas-ci ou celui-ci complètement au hasard et on ne prend que les titres de chansons françaises? Celui-là au hasard, t'es sûr? T'es vraiment sûr? Parce que je te jure, je l'ai vraiment pris au hasard. Bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end numéro 311 sur Radio FMR 89.1 MHz. Et donc il n'y aura pas de partie cinéma. Du sport, lui, me dit ouais non, j'ai pas grand chose, et ça tombe bien, moi non plus j'ai pas grand chose, j'ai que deux bouquins, c'est super. On fait une émission tranquille, à l'aise, hein, voilà. Juste, hein, non, je dis ça comme ça parce que j'ai été interviewé sur l'émission mercredi dernier. Ça a été diffusé depuis hier. C'est donc dans le podcast Les Causeries de Capucine et Niark. Et c'était à propos du podcast des podcasts. Il y avait d'ailleurs avec Gwil qui parlait aussi ben justement de tout ce qu'il écoutait et de son propre podcast, et et moi j'ai dit bah nous on a un énorme avantage en tant que service de diffusion de rattrapage d'émissions de radio, c'est qu'on peut passer des disques. Et le problème quand on passe des illustrations musicales, c'est qu'on est censé avoir 40% de disques francophones, et on a on est largement en retard, voilà. C'est aussi simple que ça. Et je me suis fait allumer lors du conseil, en faisant en fait le résumé de l'émission et tout ça. Et on m'a dit, ben coco, il va falloir que tu t'arranges. Bon, bien, on va se démerder. Ceci dit, aujourd'hui, il y aura de l'horreur, premier juré. Il y aura une cavalcade fantastique, premier juré. Et du sport aura normalement des films à la télé et des séries, premier juré. Et là, il va me dire, en fait, pas du tout, c'est ça ?
Si, si, quand même.
Ah bon ? Non, j'ai eu peur quand même.
Oh bah, et minimum syndical.
Oh bah merci. Alors, ok. Bon, alors dans ce cas-là, putain, franchement, vous m'emmerdez tous, hein, avec les contraintes à la con. Alors dans ce cas-là, hop, je prends le tas de disques, je descends le micro, je bats les cartes. Tu me jettes un dé du sport.
Allez,
tu prends le journal au hasard, tu feuillettes et tu me dis le nombre que tu as.
Alors,
allons-y, hein.
76, ça fait 7 plus 6, 13, ça fait 1 plus 3, 4.
4, ok. Corinne Dré.
Cool.
On a New Melody, d'accord.
Bah non, c'est pas francophone, désolé.
Si, si.
C'est pas, je chante
si,
en anglais.
Si, si. Un long tour de magie. Allez, hop. D'habitude, on fait pas du tout ça. On passe même pas un disque. Hein. Y a eu des fois où on n'a pas passé de morceaux du tout en une heure de dialogue.
Eh ben là, vous allez en prendre plein.
Vous allez en prendre plein la gueule. On en est désolé. Et que voulez-vous, hein, on s'est flingué déjà. Que heureusement, ils nous demandent pas de respecter les quotas de programmation de débat politique. Voilà, zou.
Tour de magie, alentour de toi, je m'efface, tour de passe-passe, hélas, je rallume les bougies, j'allonge le temps. La vie passe sans que tu me lasses.
Andre on a New Melody, un long tour de magie. Donc c'est un album qui est sorti l'année dernière chez Mosaic Music. Ouais, on fait la pub jusqu'au bout. Voilà. Non mais vous l'avez franchement voulu, hein. Vous l'avez pris, vous voulez des émissions de merde, vous aurez des émissions de merde jusqu'au bout. Et de suite, nous allons passer à un bouquin. Eh merde, il a interdit au moins de 16 ans. Comment je fais? Je peux le chroniquer théoriquement, hein. Je crois que c'est interdit de moins de 18 ans, non l'autre, fraction.
Bah oui, 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 il suffit de rester
propre, hein.
Ouais. D'utiliser de la métaphore.
Ouais, c'est à peu près ça. Shintaro Kango, Fraction, c'est aux éditions IMHO. Bon, c'est pas la première fois que les éditions IMHO éditent du contenu graphiquement explicite et réservé à un public adulte. Mais je dois avouer que quand même là,
ouais, ouais.
Faut avoir l'estomac bien accroché.
Là, je suis en train de feuilleter, là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc?
Alors, un tueur en série met en émoi à Tokyo et la police n'arrive pas à arrêter le compte horrible de cadavres coupés en deux. Des corps méthodiquement découpés et posés dans la rue, chez des gens. Le lecteur apprend vite que le tueur est un garçon de café. Mais ce dernier est dépassé car il a un imitateur. Alors nous voici dans une spirale infernale d'horreur où pourtant les protagonistes prennent le temps de discuter calmement de la manipulation narrative, par exemple, des astuces de cadrage en bande dessinée, des films de George Romero, de Dario Argento, justement, du remontage par Dario Argento, des films de George Romero quand ils sont parus en Europe, et tout ça. Bon, bref, c'est complètement dérangeant et ça met nettement mal à l'aise. Ce livre joue effectivement la manipulation narrative en retournant, je veux dire, le cœur du lecteur, en lui mettant des corps découpés, des viscères pendants, des références plus qu'appuyées aux films de zombies, et posant finalement la question critique qui est vraiment intéressante à ce sens. Qu'est-ce qui fait qu'un film de zombies peut être grotesque ou non? Et alors, franchement, c'est vrai que si on arrive à passer le cap de la couverture avec cette tête de femme qui est coupée en deux, où on est vraiment comme ça, et ben, il y a quelque chose qui se passe. Et en plein milieu, et ben, on a le temps d'une rencontre entre Shintaro Kago, donc le dessinateur en question, et l'auteur de romans policiers absurdes, Ryuichi Kasumi. Et on repart pour trois autres histoires d'horreur tout aussi déviantes. Des corps desséchés, une jouissance par des mollusques, des vers qui grouillent sous la peau. Le dessin est impeccable et précis. Shintaro Kago se fait vraiment un malin plaisir de nous attirer et révulser en même temps. Jusqu'à ce qu'on se pose l'unique certitude. Ce n'est que des dessins sur du papier. Et ces horreurs dessinées ne sont qu'un exutoire. Donc, alors attention, il faut vraiment être bien posé avant de lire le livre. Prévoyez d'être près d'une cuvette de toilette. Et surtout, ne prenez pas à la légère le petit macaron interdit au moins de 16 ans posé par l'éditeur français au dos de la couverture. Enfin, c'est franchement déconseillé au moins de 16 ans. Hein, je vous préviens de suite. Ça s'appelle donc Fraction. C'est chez IMHO, qui en général fait des trucs vraiment costauds. Et c'est de Shintaro Kago et du sport. Du coup, lui, le bouquin, il vient de le prendre et a fait wow.
Ouais. Non, mais autant la semaine dernière, quand tu parlais du bouquin qui était la métamorphose de Kafka.
Oui. Hein, dans la même collection chez le même éditeur.
Retranscrite par l'auteur japonais en manga. Autant, bon, bah, quand on connaît le bouquin, la métamorphose et tout, quoi, qu'on a lu cette nouvelle de Kafka, on s'attend à quelque chose, donc on n'est pas trop. Moi, j'ai pas été trop surpris. Pourtant, c'est bien glauque déjà. Hein, c'est faut s'accrocher.
Oui, parce que la métamorphose, elle est loin d'être physique. C'est ça qui est intéressant.
Autant là, je commence à feuilleter les pages comme ça, comme je fais d'habitude, hein, et je tombe sur des planches qui sont vraiment bon.
C'est une limite anatomique.
Okay. Oui. Non, mais il réinvente un petit peu le corps.
L'enfant insecte de Hideshi Hino.
Ouais. Là, il réinvente un petit peu le corps humain, on va dire.
Ouais, sans trop spoiler, c'est vraiment une spécialité, par contre, de ce dessinateur. C'est-à-dire qu'en général, il fait du choquant, du scato, de l'horreur. Vraiment, il a cette spécialité-là de choquer. Là, c'est clair, t'as l'œil qui fait poum, tu fais oups. Voilà. Et maintenant, tu vas me tirer un nouveau dé. Je bats les cartes.
Alors.
Ah. Je vous jure, non mais sérieux, ça.
110, ça fait 2.
2. Inès Barnes, Three Sides.
Ah ouais, c'est pas trop mal ça en plus quoi.
c'est pas trop mal. Ah
ouais,
bon.
Ouais, mais tu me dis qu'il y a une reprise sympa dessus, quoi.
Bah, c'est le premier titre en français, je parie, c'est La Vie.
Ouais, ouais, mais il y en a d'autres en anglais qui sont bien aussi, quoi. Mais c'est La Vie, ouais, ouais.
Ouais, bah, obligé, on est obligé de mettre que les titres français. Bah oui, hein, on a quand même, on est sous l'immonde dictature française des artistes. Ouais, ouais, c'est absolument ignoble.
Surtout qu'elle est anglophone, elle est anglo-saxonne, quoi. C'est ça qui est assez marrant, quoi.
Helen Barnes, extrait de l'album Three Sides, ça s'appelle C'est la vie. Et donc effectivement, l'album est découpé en trois parties.
Ouais, parce qu'il y a une partie studio et une partie live.
Ouais. Et c'est chez Discograph.
Thanks to you, bravo. That was a fine show.
Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est la vie, c'est le refrain. Et normalement, j'ai juste obligation d'avoir le refrain en français. Donc ça passe. Hein.
Bah oui.
Donc non. Là-dessus, on est couvert, on est tranquille. C'est la vie. Donc extrait de la chanteuse francophone Helen Barnes de son album Through Seed. Voilà. Sandaway, on vous en a souvent parlé. Donc Sandaway, c'est une maison d'édition qui a pour particularité de faire choisir ses programmes éditoriaux non pas par un éditeur, mais en fait c'est en proposant au public d'être des éditeurs. Et pour cela, c'est très simple, c'est de financer la production de l'album. Ça s'appelle crowdfunding, c'est-à-dire que on va financer sur un coup de cœur, on gagne des sous si jamais on rentre dans nos fonds. Et que l'artiste, bien évidemment, est payé. Ça a été lancé en France, bien évidemment, par My Major Company. Il y a des artistes qui font ça aux États-Unis depuis maintenant 5-6 ans. Et c'est Train 13 Nord de Nine Inch Nails qui a plus ou moins lancé ce mouvement-là. Et c'est vrai que maintenant, ça commence à être de plus en plus important. Sandaway, bien sûr. Mais il y a aussi maintenant d'autres secteurs qui sont en train de se monter. Il y a Kickstarter, par exemple, qui finance des films, des jeux vidéo, des documentaires, bref, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Alors en général, on se dit ouais, mais est-ce que c'est intéressant? Il y a eu My Major Company qui s'était planté avec un album où en fait c'était un buzz qui avait été lancé uniquement parce que la fille avait eu des articles dans la presse. Ils avaient monté leur buzz, donc ça avait été financé, mais en fait l'album s'est très 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 mal vendu. Mais des fois on a réellement d'excellentes surprises et vraiment de très 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 bonnes qualités. Thierry Lamy au scénario, Frédéric Verwisch au dessin. Ça s'appelle À l'Ouest. C'est une série probablement. Donc le premier tome s'appelle Frontier Force et c'est donc édité par Sandaway. C'est sorti pour le Salon du Livre. Et ça revient sur cette conquête du Far West qui fut très difficile. Il faut dire aussi que les Indiens ont déjà fort à faire contre les esprits maléfiques, les Winnok et les Wendigos. Si en plus ils ont les assauts des Blancs qui veulent pousser vers l'Ouest, alors bien évidemment, les cruels Winnoks qui maîtrisent la magie et le vol ne se laissent pas faire, tels des harpies. Eh ben oui. Justement, un cow-boy trop aventureux est allé au-delà de la frontière et y a dérobé un artefact très ancien, provoquant la fureur des Winnoks. Le gardien de la frontière, Custer, rêve de faire un coup d'éclat et d'ouvrir les voies de l'Ouest en le civilisant par le fusil et son 7e de cavalerie. Mais il a dans les pattes le sergent Woodburns de la Frontier Force, des mercenaires achetés par Washington et organisés en un corps d'élite pour gérer la frontière justement au mieux. Bref, ce petit larcin va être l'incident qui va mettre à mal le fragile équilibre de la frontière. Or, il semblerait que certaines églises aient plutôt intérêt à garder le statu quo avec les esprits de l'Ouest. En plus des combats entre armes à feu et magie noire, des intrigues politiques pourraient se voir exposées, ce qui ne va pas calmer les combats d'ego. C'est enlevé, rafraîchissant, ça penche parfois vers un steampunk délicieux. Cette série, vous l'avez compris, mélange uchronie et fantasy, et c'est un vrai bonheur. Et on comprend qu'elle est tapée dans l'œil des 260 et 10 notes de Sandaway, les investisseurs qui ont avancé les fonds pour que sorte l'album. Ils y croient, et à mon avis, tout le monde attend maintenant le tome 2. Alors je dois avouer que j'ai eu la chance d'avoir en main l'édition luxe de l'album car il contient des dessins proposés aux Edinotes par Frédéric Verwisch et ce dessinateur, s'il est déjà très bon dans l'usage du noir et blanc pur, se révèle carrément excellent dans les illustrations en bichromie. Bah oui, ajoutez du rouge sur le blanc du papier cerné de noir et vous aurez une sensualité troublante, digne de certaines pages de Frank Miller dans Sin City. Thierry Lamy et au scénario, Frédéric Verwisch au dessin, et là franchement c'est une découverte. À l'Ouest, le premier tome s'appelle Frontier Force, c'est chez Sandaway, et oui c'est franchement, waouh, bon. Duce, tu me tires un dé?
4.
Les battre.
Alors il faut qu'on vous dise quand même que on a des dés un peu spéciaux, on a des dés qui montent jusqu'à 9 quoi.
Voilà, 4 Osé Funk Hypnotique. Oh là.
Ouais, faut mettre le 7, faut mettre.
D'accord. En plus tu me dis le numéro. OK. Je m'inquiète vraiment. Avec la pochette. Oh. On est passé de la bichromie franchement luxueuse à des trucs violets, orange, jaune. Oh putain, quand je vois Facebook et je vois une adresse en MySpace et une autre en adresse email at opérateur.fr, ça me fait un peu peur. Oh, on n'a pas le choix.
Vas-y, funky.
JF voire plus si invité. Oser, oser sexe, oser s'exprimer. Oser, oser sexe. Oser, oser sexe, oser s'exprimer. Oser, oser sexe. Je suis brune et j'ai les yeux verts, grande, mince et plutôt belle, féminine et douce et câline. Je suis née juste pour te plaire, situation célibataire, et je te cherche. Oser, oser sexe, oser s'exprimer. Oser, oser sexe. Oser, oser sexe, oser s'exprimer. Oser, oser sexe. Si tu es un homme sympa, facile d'accès, au portefeuille épais, sexy, charmeur, facile d'aspect. Je suis née pour te passionner, sans discrétion, censurer. Oser, oser sexe, oser s'exprimer. Oser, oser sexe. Oser, oser sexe, oser s'exprimer.
Ah bon. Bon d'accord. Pardon.
Ouais, ça vient de sortir. Ça va rentrer vite.
Ça rentrait vite à l'expéditeur. Hein? Je pense. Non non non, moi je pensais tu vois dans ma prog, moi j'avais un truc qui était beaucoup mieux et qui était beaucoup plus sympa. Tu vois, c'est extrait de l'épisode de Mad Men qui est passé cette semaine sur la chaîne AMC aux États-Unis. Alors, l'intrigue est relativement rapide. Don est à, c'est l'anniversaire de Don chez lui et sa femme Megan Draper, jouée par Jessica Paré, lui a fait une surprise. Il rentre, il a un petit groupe qui va jouer une musique et c'est à tomber. Voilà. Je vous le mets.
Thank you. Thank you all for coming. I think we should call it a night.
Absolutely not. Don.
Ah putain.
You stay there.
Did you buy him a pony?
Un, deux, trois, quatre. Qu'ils sont doux. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou. bisous, bisous, le bruit des bisous. Dans les buissons, sous le ciel du mois, oh doux, les amoureux glissent à pas de loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On entend partout. Que c'est doux. Ouh, ouh. Me dites-moi, savez-vous ce que veut dire entre nous? Ce que veut dire zoubizou? Ça veut dire, je vous l'avoue, mais oui, je n'aime que vous. Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou. Mon Dieu, que c'est doux. Zoubizou, bisou.
Il y a une réplique, je vais la traduire parce qu'elle est hyper drôle. Pourquoi tu ne chantes pas comme ça? Oh, parce que tu n'es pas comme ça. Donc c'est Mad Men. Je sais pas si vous connaissez donc la série qui est une série qui se passe dans une agence new-yorkaise au début des années 60. Je crois que ça se passe en 64-65 hein, dans la saison actuelle.
Parce qu'au début Kennedy est vivant et puis il crève.
Bah donc, oui, c'est la saison où il crève. Et c'est actuellement diffusé, si je ne me trompe, sur The Sundance Channel.
C'est diffusé. Bon, c'est un petit peu dommage que cette série était un petit peu caviardée hein, sur les chaînes un peu plus généralistes.
Ah oui, parce que là on l'a en VO exclusivement sous-titré. Par contre, le problème, c'est que Sundance Channel, quand ils se lâchent, ils décident de passer. Ils font un marathon.
Ouais, non, mais c'est ça, ils font toute la nuit, quoi. Alors,
pas toute la nuit, ça commence samedi matin à 8h, c'est jusqu'au dimanche soir 20h. Alors, ressors évidemment, t'es lessivé, mais ça vaut le coup. Cette série est très belle et reçoit des awards à foison pour la qualité des décors, des habillages et tout le reste. Et puis, ça fume.
Ouais, et y a pas de poursuite de bagnole, y a pas de baston, s'il y en a quelques, quoi. Enfin bon, c'est pas le propos principal du film. Enfin, y a pas de baston physique, on va dire,
en tout cas,
du baston intellectuel et psychologique. Il y en a.
En tout cas, moi, en tout cas, à chaque fois, c'est un pied chaque fois qu'on regarde cet épisode. Ma foi.
Oui. Eh bien, la télé, alors avant de parler des programmes proprement dit, on va parler un petit peu du bouleversement du PAF. Parce que il y a des nouveautés.
Il y a d'abord, dans l'immédiat, il y a trois chaînes qui disparaissent.
Alors, il y a déjà TPS qui va disparaître, c'est mercredi prochain. Mercredi, donc si vous avez encore TPS, profitez-en jusqu'à mercredi prochain, mercredi dernier jour. Alors pourquoi ça disparaît? Il faut bien savoir que TPS au départ avait été lancé, enfin tout le bouquet TPS et puis les autres TPS Star, TPS machin et TPS bidule. Ça avait été lancé pour essayer de contrecarrer la toute puissance de Canal+.
Donc CanalSat, c'était TF1 et M6 qui s'étaient unis, qui avaient déjà lancé une chaîne qui s'appelait TF6 et ensuite bam, on balance le bouquet.
Voilà.
AB aussi avait lancé son propre bouquet. AB a très 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 vite abandonné et a revendu en fait la diffusion de ses chaînes aux deux bouquets. Et TPS, ça avait été tenté, ça a été une guerre finalement perdue. Hein, donc il y a eu une fusion.
Ouais, il y a une fusion donc.
Même si il y a une grosse amibe quand même, a mangé une plus petite, voilà.
Et en fait cette fusion elle a lieu il y a 5 ans parce que l'une des contraintes de Canal+ quand il y a eu cette fusion, c'était de maintenir TPS Star en l'occurrence pendant 5 ans. Et on arrive au bout des 5 ans.
Non, c'est même plus compliqué que ça. C'est non seulement TPS, mais en plus, ils devaient ouvrir une partie de leur chaîne exclusive aux autres distributeurs, donc aux opérateurs ADSL et tout ça. Notamment, Jimmy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chaîne Canal que l'on a du coup? Foot Plus. TPS Star notamment. Donc plus une partie des chaînes Ciné Plus. La fusion a été dénoncée, donc l'accord ne tient plus. Donc déjà, ils ferment TPS Star, ils reprennent leur chaîne, donc Foot Plus redevient une exclusivité CanalSat, les chaînes Ciné Plus aussi, donc ceux qui sont... Il y a des opérateurs qui ont été plus malins, qui ont négocié un accord, ce qui fait qu'on a CanalSat à un prix exclusif qui est plus ou moins intéressant. Mais bref, en attendant, TPS Star, ça a absolument pas marché, ça permet surtout de, pour eux de ce qui motive surtout la fermeture de cette chaîne, c'est le fait que TPS Star est diffusé sur la TNT, que ça coûte horriblement cher, et donc oh bah on arrête là.
Ouais ouais, on fait de la place hein, pour une autre chaîne. Alors il y a d'autres choses qui changent un petit peu dans le PAF, justement on parlait de Canal, ben Canal qui est vraiment le gros acteur et tout, et bien ça y est, c'est fait. Les chaînes Orange, les 5 chaînes cinéma thématiques d'Orange, hein, à savoir Cinemax, Cinéchoc, Cinénovo, Cinégéant et Cinéhappy, eh bien, vont passer sur le bouquet CanalSat. Ça y est.
Ça y est. Ouais.
Alors, disparition également programmée, mais
tu sais combien ça a coûté en 3 ans que Orange a lancé ses chaînes? Tu sais combien ça leur a coûté? 600 millions d'euros.
Oh, bah c'est rien.
Enfin, déficit complet, etc. Donc,
à peine plus qu'un demi-milliard, c'est rien.
C'est rien, c'est peanuts.
Alors, concernant Orange Sport va continuer à émettre, mais pas longtemps, parce que bon, la partie des. Justement, ils sont encore en négociation pour que les contrats exclusifs passer entre les différentes fédérations de sport qui ont l'exclusivité avec Orange. On parle du basket, on parle de la boxe, on parle de la natation, non pas la natation, on parle du tennis, voilà. Ça c'est les 3 sports principaux en fait qui étaient diffusés sur Orange Sport. Donc il y a des contrats qui sont passés directement de chaîne à fédé, et donc il faut larguer ces contrats, il faut signer des contrats avec d'autres chaînes et tout pour garantir la pérennisation de la diffusion des événements sportifs, hein, des matchs et des rencontres sportives. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais à terme de toute façon ça va rebalancer sur Canal+. Alors Canal+ qui va un petit peu modifier son offre, on va dire, hein, parce que bon, on va pouvoir avoir bien sûr donc ces 5 chaînes Orange qui vont continuer à émettre, mais sous la houlette de Canal, hein. Donc ce sont des chaînes qui sont
quand même vraiment bien. Ça va être rebrandé tout le reste, ouais.
Ce sont des chaînes qui sont quand même vraiment bien par la diversité et par la nouveauté, hein, des programmes qu'ils nous proposent, surtout des films très récents, des séries inédites qui sont pas négligeables. C'est eux qui ont balancé Breaking Bad, c'est eux qui ont balancé Walking Dead, j'en passe et des meilleurs. Bref, ils ne passent pas beaucoup de séries. Ils se sont également tournés un petit peu vers les séries de pays dont on ne parle jamais, dont on croit qu'ils ont même pas la télé, tel le Brésil, avec des...
La production du Brésil, on la connaît, quoi.
Oui, mais on connaît la production du Brésil, mais on ne connaît pas les programmes. À part les telenovelas brésiliennes, qu'est-ce que tu connais de la télé brésilienne?
C'est vrai qu'on a très très peu des téléfilms du soir du Brésil.
On sait pas que le Brésil fait des séries, fait des documentaires, bref, comme toute télé qui se respecte. Donc, sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, concernant TCM, alors TCM va passer en HD. Et TCM, qui est une chaîne du bouquet Canal, justement, quoi, on avait craint à un moment qu'elle retourne dans le giron de Canal, donc ne soit plus disponible sur les autres bouquets ADSL, et ça sera quand même le cas pour Numéricable et pour donc le câble et l'optique, donc du côté de TCM. Et TCM qui marque le coup d'ailleurs depuis le début de ce mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'avril, en vous diffusant, dans ma sélection film, j'ai fait l'impasse, mais en vous diffusant vraiment des grand chef-d'œuvre du cinéma. Hein, alors, j'en passe des meilleurs, Easy Rider.
Surtout, il y a un contenu critique. Il y a des documentaires qui sont vraiment très très bien.
Docteur Jivago, Le Panda River Kwai, Psychose, l'Inspecteur Harry. Enfin bon, vraiment des films que tout le monde connaît, même si tout le monde ne les a pas vus.
Mais ça ne passera pas en HD sur CanalSat.
Non, ça passera pas en HD.
Sifi et 13e rue qui étaient en HD sur CanalSat ne sont plus diffusés sur CanalSat, tout simplement parce que CanalSat dit on va passer l'essentiel notre fric dans nos chaînes qui nous sont exclusives, hein, bravo. Donc voilà, il y a une autre chaîne qui disparaît. Là par contre c'est un petit peu plus triste, c'est Allociné TV qui disparaît le 15 avril. Allociné avait déjà lancé une chaîne de télévision dans les années 90, si je me souviens bien, où c'était en fait que des bandes annonces et puis dessous marqué leur numéro de téléphone sur facture. Non, qui n'était pas sur facture, je dis une bêtise. C'était un numéro local où en fait on appelait pour savoir quels étaient les films qui passaient, etc. Dans tel cinéma. Allociné a arrêté ça finalement au bout d'un moment parce que diffuser sur le satellite ça vaut assez cher.
Et ils ont un site maintenant.
Ils l'avaient déjà, hein, le site datait d'avant la première chaîne de télé. Et ils ont relancé le projet d'une chaîne de télé. Elle a été lancée depuis 6 mois. L'idée était relativement simple. Était, ben, on met le contenu vidéo que l'on fait exprès pour notre site, c'est-à-dire faux raccords, merci qui et tout le reste. Et en même temps, on fait un magazine d'une heure tous les jours qui donne le programme qu'il y a ce soir à la télé. Et en même temps, c'était de placer des séries et des films. Des séries, tout simplement, c'est les serials des années 30 à 50, et un film, sont des films qui en général sont issus des back catalogues, sont très peu utilisés. Mais l'idée, malheureusement, a vite tourné court, tout simplement à cause des dispositions législatives en France, qui fait que on ne peut pas passer de films le mercredi et le samedi soir. Le CSA a levé l'exception, mais pour une seule chaîne, à savoir France 4. France 4 peut diffuser maintenant des films le mercredi, mais pas Allociné. Donc Allociné a pris acte et a dit d'accord, ok. Donc en fait, ce ne sera pas dans 2 ans, mais dans 7 ans qu'on deviendra profitable. On a derrière un actionnaire américain, donc on a dit qu'on arrêtait immédiatement. Ils sont d'accord. Donc ils vont s'arrêter le 15 avril prochain. C'est dommage parce que c'était une chaîne sur le cinéma. Qui était intéressante, je veux dire, justement par tous les documentaires qui saucissonnaient en fait leur tranche, en plus de passer ce qu'on appelle les EPK, c'est-à-dire les press kits, c'est-à-dire les vidéos que l'on envoie aux journalistes pour en fait faire leur sujet sur les films, donc qui du coup étaient passés in extenso et traduits. Yahoo aussi, ils ont passé le journal de la production de The Hobbit en sous-titré, ce qui était intéressant justement pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais avec l'accent néo-zélandais. Coupure musicale.
Ouais.
Il y en a qui me disent
pour ceux qui veulent encore voir Allociné TV, profitez-en. Alors,
profitez-en
ce soir,
vite, ouais.
Alors ce soir 20h40 par exemple.
Il y a des séries avant.
Mais c'est une séance spéciale Nanarland. Alors, ça peut être sympa, quoi.
C'est les escales à Nanarland hein, qui passent en fait. C'est tous les escales à Nanarland avec le site nanarland.com qui sont diffusés à la boucle. Ce qui est ouais, c'est très amusant quand tu te fais une soirée bien alcoolisée avec les copains. On est tous explosés de rire, quoi.
Et lundi, ils nous diffusent les Diaboliques de Clouseau, tu vois. Donc
oui, punaise, ouais. Bon,
ok. Alors, on en termine avec le petit bouleversement des chaînes et tout pour vous y retrouver. Alors déjà une chaîne qui fera plaisir, une chaîne qui est l'une des chaînes favorites de ta bien-aimée Cuisine TV, qui ne s'arrête pas. Non, ça s'arrête pas. Mais qui change de nom. Et ça va s'appeler Cuisine Plus, tout simplement, parce que ça passe également.
Pour rappeler Canal Plus, et comme c'est en exclu, Plus. Voilà, Plus. Comédie Plus.
Et Télémaison qui devient également Maison Plus. Donc,
alors j'attends que iTélé devienne iTélé Plus. J'attends que Direct 8 devienne Direct 8 Plus. Ouais. Ça va être bien ridicule. Bien ridicule ce name dropping.
Allez, je crois que c'est tout pour l'instant, quoi.
T'es quelle page là?
Alors par contre, ce qui me gêne beaucoup, c'est que Sport Plus est également une chaîne du groupe Canal qui était visible d'ailleurs sur les autres réseaux, et bien maintenant retourne dans le giron de Canal, donc n'est plus visible par les autres chaînes. C'est un petit peu dommage parce que c'est quand même
par
une
les
chaîne
autres,
qui faisait complément
par les autres
avec
opérateurs,
Canal Plus Sport.
C'est-à-dire Numéricable ne pourra pas le disposer d'une manière libre, alors que c'est chez tous les opérateurs ADSL.
Voilà.
À condition d'avoir CanalSat. Voilà, j'ai trié mes cartes. Tu me dis quel numéro de page tu es.
33,
ok. Donc c'est
6.
C'est Canyon extrait de... Enfin c'est Canyon, pardon, de l'album de François Stahl. Ah, c'est que des titres francophones, donc on a peut-être une chance. Canyon, on va... Bah tiens, on va mettre le deuxième morceau, Lâcher l'affaire, donc François Stahl. Je tiens à signaler d'ailleurs que les temps d'antenne et les ordres de passage des candidats aux élections présidentielles ont été décidés hier par le CSA en collaboration, et c'est pas une blague, avec la Française des Jeux.
« passer des grands trains qui laissent dans la nuit traîner leur lueur. Et la vie qui passe et qui étreint. Et les wagons lisses des voyageurs sont pleins de nous, de gens comme nous, de gens comme moi, de gens comme toi. Et si on regarde le monde tourner, on peut vraiment se demander, avons-nous lâché l'affaire? Ont-ils tous lâché l'affaire? Il y a les ministres hautains et leur jet privé et moi au fond de la mare et leurs collaborateurs qui divaguent vu d'ici, ouais, c'est certain. Et loin sur la jetée, est-ce toi que j'ai vu tout petit? Et si on regarde le monde tourner, on peut vraiment se demander, avons-nous lâché l'affaire? Ont-ils tous lâché l'affaire?
François Stahl, extrait de l'album Canyon, Lâcher l'affaire, et on en est déjà au cinquième morceau, c'est un record dans le Super Weekend.
Et c'est pas fini.
Et c'est pas fini. Et c'est que de la chanson française. Ça, on aura notre dose, on pourra passer plein de trucs, surtout dernier week-end d'avril, hein. Peut-être qu'on le fera en direct, au TGS ou à Nami. Enfin bon, bref, Il y avait aussi d'autres choses sur, mais ça c'était à propos de la télé sportive, mais donc il y avait tout un topo. Alors je sais, on nous a dit ah ouais, mais vous auriez pu parler de ci, parler de ça. Non.
Ouais, non.
On est là pour parler des séries télé. Rien à foutre.
On va pas vous faire la redistribution des chaînes sportives et des droits acquis par Al Jazeera dans le football français.
On a déjà assez de mal à battre les cartes avec les CD déjà.
Oui. Enfin, je pense que ton Twitter voulait dire de la part de son expéditeur qu'il avait les boules de pas savoir s'il y aurait toujours le match de Division 2 le lundi, de Ligue 2 on dit d'ailleurs maintenant quoi. Rassure-toi, continuera à être diffusé le lundi, le match décalé de Ligue 2. Voilà, parce que Eurosport a le premier choix. Voilà, bon. Et garde ce premier choix. Bon, parlons tout à fait d'autre chose avec les séries et une série qui n'est pas inédite, non, mais la saison qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir voir le début commence demain à 20h40 sur la chaîne Comédie. Et si je te dis Comédie le dimanche soir, tu me réponds
Comédie Plus, je sais pas.
Two and a Half Men.
Ah oui, c'est vrai.
Mon oncle Charlie.
Alors, il va être emmerdé d'ailleurs, à mon avis, pour la prochaine saison, pour le titrage français.
Ouais, parce qu'il s'appelle plus Charlie, mais c'est pas grave, parce que bon, il y a que le titre français en fait, hein, mon oncle Charlie, parce que le titre original c'est Two and a Half Men, hein.
Est-ce que
deux bonhommes et demi.
Ce qui est beaucoup plus drôle.
Ce qui est beaucoup plus drôle et ce qui est tout à fait logique si on connaît un petit peu la série. Alors, bon, vous avez suivi un petit peu les épisodes People de Charlie Sheen, le héros de cette série, bien entendu. Le type qui fait que cette série en est à sa 9e saison quand même. Parce que si ça avait été un autre acteur, ça aurait peut-être franchi le cap de 4, 5, 6 saisons. Puis au bout d'un moment, il y aurait une période de lassitude, déjà vu. Et généralement, c'est comme ça que les séries s'essoufflent, surtout les séries comiques, hein, dans ce fameux format de 25, 27 minutes. Donc là, c'est déjà, on peut dire que c'est déjà une bonne réussite. Bon, on se rappelle que d'autres séries avaient duré un petit peu plus longtemps. Friends avait duré quand même 10 saisons.
Ouais,
ça, c'était la mayonnaise qui avait vraiment pris entre les 6 acteurs et actrices de Friends.
Ce qui a tué NBC, justement, parce que c'était la locomotive qui rapportait énormément d'argent et qui permettait de financer pas mal de séries à côté qui marchotaient. Et là, CBS avait vraiment eu très, 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 très chaud avec Two and a Half Men parce que c'est une vraie locomotive d'audience sur les autres séries qu'il y a dans la soirée. Ça imposait vraiment une thématique forte. Et là, ils se sont dit, putain, si on a plus ça, on va avoir des soucis.
Ouais, parlons un petit peu chiffres, justement. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais quand on remonte très loin en arrière, eh bien, après la deuxième ou la troisième saison de Friends, la série commence à être vraiment un buzz incroyable, commence à être regardée par plein de gens, obtient un succès étonnant mais mérité quand même, et de ce fait les acteurs décident tous les six d'un commun accord de dire ok, on continue, mais il faut nous augmenter parce que bon, ça va quoi.
C'est toujours comme ça en général.
Et en fait,
général, quand l'audience de la série est à peu près équivalent, les acteurs disent il faut nous augmenter. Par contre, quand l'audience baisse, c'est les patrons de chaîne qui vont leur dire écoutez, on va arrêter la série, sauf si vous acceptez qu'on réduise votre salaire.
Non, mais là ce qui était remarquable quand même, c'est que généralement il y a toujours une locomotive voire deux locomotives qui touchent plus que les autres, c'est normal, on va dire. Enfin bon, c'est normal, c'est discutable, mais là dans ce cas précis, eh bien les six acteurs ont dit ok, on veut toucher chacun la même chose au centime près, au cent près. Et donc à l'époque, eh bien ils avaient demandé cette augmentation. Et donc, ce qui fait qu'ils touchaient chacun 100 000 dollars par épisode.
Oui.
Alors, à l'époque, ça nous paraissait déjà énorme qu'on puisse se faire payer 100 000 dollars par épisode qui ne dure que 25 minutes. D'accord. Bon, il faut savoir que le tournage met quand même plus de temps, hein. C'est quand même vachement plus de travail, bien entendu, que ce qu'on voit sur le petit écran. Mais quand même, on se disait, ça commence à atteindre des sommes un petit peu indécentes. Quand on parle de Charlie Sheen dans Mon Oncle Charlie, donc une série qu'il a porté à bout de bras vraiment quoi, et qui doit vraiment à son don à son talent, eh bien Charlie Sheen dans les derniers, avant de se faire virer, touchait 1,25 million de dollars par épisode. somme faramineuse pour un acteur de série. C'est l'acteur de série le mieux payé au monde. C'était l'acteur de série mieux payé au monde. Jack Bauer peut se rhabiller à côté. Était loin, mais vraiment très très loin du compte. Hein.
Sans compter
qu'il est margé à quelque chose comme 800, 900 000 dollars, il me semble, par épisode.
Sans compter que ils sont payés en tant que acteurs. Alors il faut savoir que le système fait que aux États-Unis, quand on fait une prestation en tant que musicien ou en tant qu'acteur, elle est achetée et on ne touche plus de droits sur les rediffusions. Charlie Sheen, lui, comme la plupart des acteurs à côté, qui sont des acteurs de très 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 de trucs qui marchent vraiment beaucoup, ils disent OK, mais on veut
des bénéfices.
On veut être producteur exécutif, voilà. Comme ça on touche des bénéfices là-dessus en tant que entre guillemets actionnaire.
Voilà, c'est
voilà.
Ça.
Voilà, donc c'est une somme qu'il faut augmenter. C'est pour ça aussi que quand vous regardez les séries américaines, des fois vous avez producteur. Vous avez des fois ça dure 1 minute 30, vous avez une quinzaine de producteurs.
Vous avez plus de producteurs
que d'acteurs
au générique quoi des fois.
Voilà.
C'est vrai pour CSI hein, ou William Peterson
il était
producteur, donc même s'il n'apparaît plus dans la série, même si c'est Larry Fishburne qui fait le boulot, William Peterson à la fin de l'année il voit les pépettes qui tombent hein, de sa non participation
ceci dit il est resté mais derrière la caméra à ce qui paraît il était justement il surveillait le reste.
Voilà. Alors donc Charlie Sheen 1,25 million. Alors on se dit, mais comment ils peuvent faire pour gagner du pognon alors qu'ils doivent déjà payer le mec principal 1,25 million de dollars, plus le tournage, plus les autres acteurs, plus la pub, plus tout le truc. Eh ben c'est pas compliqué, il faut savoir que chaque épisode leur rapporte environ 3 millions de dollars. Donc ils retombent quand même sur leurs pieds. Et ça, ce n'est que les recettes publicitaires, hein, c'est-à-dire les pubs qui passent avant, pendant et après le show. En plus, les ventes de DVD, les produits dérivés, pour eux, c'est vraiment bingo en ce moment avec mon oncle Charlie. Donc, on ne va pas tuer la poule aux œufs d'or. C'est clair. Donc, il fallait trouver un remplaçant à Charlie. Mais qui peut remplacer Charlie Sheen? On se demande bien. Alors, on a parlé d'Emilio Estevez, on a parlé d'autres acteurs de ce même, qui en fait, en plus, ce sont des potes, ce sont Emilio Estevez, c'est le demi-frère de Charlie Sheen, faut le savoir.
D'accord.
Hein. Mais oui, parce que Emilio Estevez est le père et le fils
de sa fille,
du papa Sheen, Martin Sheen.
Ah d'accord.
Donc, car la femme de Martin Sheen s'appelle Renée Estevez. Et voilà. Donc ils sont demi-frères hein, de toute façon quoi. Alors, on a trouvé Ashton Kutcher. Alors Ashton Kutcher, on le connaissait, on l'a découvert dans une autre excellente série comique qui est That 70 Show, où il jouait le rôle d'un grand neuneu qui pense qu'à courir après les filles et tout. Enfin, vous rappelez cette bande d'adolescents et tout. Là aussi, ça va être un franc succès pour cette série. Mais depuis Ashton Kutcher, il faisait plus parler de lui dans la rubrique People, hein, pour les putes qu'il allait voir et qui trompaient de Mimour. Et puis, comme maintenant, ils sont séparés et qu'il a pris la place de Bruce Willis. Que pour ses performances à l'écran. Et Ashton Kutcher, d'ailleurs, va toucher vachement moins. Enfin, vachement moins, c'est relatif. Que Charlie Sheen, il ne touchera que 750 000 dollars par épisode. Alors comment ils ont fait? Les scénaristes n'ont pas emmerdé le bruitchant de toute façon. Vu que toute la série avec Charlie Sheen avait été tournée en amont de ses problèmes personnels, on va dire, ils ont pu diffuser la série jusqu'à la fin. Et à la fin, il meurt tout simplement quoi. Et on commence la série.
C'est un peu la vengeance du scénariste principal, producteur qui a amené le projet, du style OK, tu as voulu la jouer comme ça. Non, tu reviendras pas.
Non, tu reviens pas. T'es mort. Alors Ashton Kutcher, alors ça démarre avec le frère qui doit donc quitter la maison puisque la maison est à Charlie, hein, puisque c'est lui qui a plein de pépettes, il compose des musiques pour des publicités pour la radio, pour la télé, il est plein de pépettes, il habite à Malibu. On suppose que c'est à Malibu, c'est près de la mer. Et donc les deux autres, le Halfman et Angus T. Jones et John Cryer, doivent donc quitter la maison puisqu'elle n'est pas. Mais John Cryer va faire la rencontre d'un milliardaire qui est dépressif, suicidaire, parce qu'il a été largué par sa femme et qui va emménager chez eux à la place de Charlie Sheen. Voilà l'artifice scénaristique. tout con, hein, mais ça marche pas mal. Alors il faut savoir que pour le premier épisode de cette 9e saison aux États-Unis, il a été regardé par là il y a eu l'effet de buzz et l'effet de nouveauté, bien entendu. Qu'est-ce que ça allait devenir après Charlie Sheen? Eh bien, ça a été vu quand même par 23,7 millions de téléspectateurs aux États-Unis, l'épisode le premier épisode de la saison 9, donc, et l'arrivée de Ashton Kutcher dans la série. Après, ça baisse un petit peu, mais enfin, c'est une baisse qui est quand même négligeable, on va dire. Ça baisse d'environ 10-15%. Donc, on reste quand même aux alentours de presque 20 millions de téléspectateurs qui sont scotchés à chaque épisode de Mon Oncle Charlie. Donc, la série continue à fonctionner dans un registre un petit peu différent. À savoir si la mayonnaise va prendre pour nous, les Européens, hein, qui ont une sensibilité un petit peu différente.
Oui, oui,
il faudra
oui,
juger sur pièce de toute façon demain soir à 20h40.
Comme Friends, si vous connaissez Mon Oncle Charlie uniquement en VF, vous avez vraiment non, la moitié des gags qui sont.
Là, c'est même pas la peine. Mettez la VO avec les sous-titres. Les sous-titres sont très bien foutus. Ils loupent quelques vannes, mais c'est obligé parce que bon, bah, sinon vous verriez que du texte sur l'écran.
Certaines, hein, c'est pas la peine.
Mais certaines en français, c'est pas la peine de toute façon. Hein. Bien que nous respectons quand même les doubleurs, hein. Bien que j'en dise beaucoup de mal de temps en temps. Alors pour les deux premiers épisodes, donc c'est un épisode double, deux épisodes, un épisode double qui s'appelle Enchanté de vous connaître, Walden Smith. Walden Smith, c'est le nom interprété donc du milliardaire interprété par Ashton Kutcher, et en guest starring. Alors là, c'est pas mal parce que bon bah depuis que la série marche, c'est toujours le même truc. À partir du moment où la série commence à marcher, il y a des acteurs qui disent oh putain, je peux pas venir faire une apparition et tout. Je reviens à Friends, on avait vu Bruce Willis, on avait vu Tom Selleck.
Tom Selleck en plus sur plusieurs épisodes.
Oui, 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 parce que c'était le petit copain de Courtney Cox, quoi. Mm. Enfin, le petit copain, façon de parler. Façon de parler, quoi.
Bah, et alors, petit bonhomme.
Et c'est vrai également pour Mon Oncle Charlie, sachant quand même que Chuck Lorre, lui, bon, qui est le créateur, producteur de la série, lui, bon, ok, il sait ce qu'il veut, il est toujours barré dans ses trucs. Chuck Lorre, c'est quand même le mec qui nous avait fait Seinfeld, hein, c'est bon, il a l'origine de Seinfeld, de la mise en image de Seinfeld, de Jerry Seinfeld, le stand-up comique. Donc, et bon, bah, c'est un mec qui sait quand même de quoi il en ressort quant à la comédie, quant au comique à la télé. Donc, c'est un professionnel quand même. Et là, bon, bah, du côté des guests, eh bien, dans ce double épisode, on va avoir John Stamos. Alors, John Stamos qui est déjà un guest dans Glee dans la saison 2, c'est le dentiste.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Mmh.
Et qui jouait également dans ER et tout. Mmh. Enfin, bon, bref, Jenna Elfman. Donc, qui vient également de des sitcoms, hein, qui a également fait un sitcom. Alors, je me rappelle pas si c'est Darman Greg ou si c'est l'autre. Hein, et il y a également Thomas Gibson. Alors là, c'est quand même un petit peu plus Thomas Gibson qui joue le rôle de Notch dans Esprit Criminel. Hein, donc ça peut être assez rigolo. Donc c'est demain soir, hein, c'est Mon Oncle Charlie à partir de 20h40 sur Comédie.
Alors sur les caméos, c'est un montage qui est apparu dans Boing Boing cette semaine. C'est un montage assez marrant. C'est les 14 caméos que l'on a dans la série classique Batman and Robin, vous savez, celle des années 60, où en fait Batman et Robin, au bout d'un moment, il y a un gag récurrent, c'est ils marchent sur sur un building, ils montent à la corde et tout d'un coup il y a une fenêtre,
qui s'ouvre
et il y a quelqu'un.
Il y a quelqu'un, ouais.
Et qui c'est que l'on trouve dans ce quelqu'un? Tout ça, on l'avait pas dans la version française. Quand on l'a en VO, on fait ah mais oui, mais bien sûr, j'avais pas reconnu. On a quand même le colonel Klink. On a l'un des mecs des Rat Pack là, j'ai oublié là le noir,
Sammy Davis.
Sammy Davis Junior, il y a des gens comme ça qui apparaissent, on est vraiment surpris, qui jouent leurs propres personnages qui viennent d'autres séries, c'est comme ça que l'on Bruce Lee.
Et je crois qu'il y a, ouais, il y a Bruce Lee, oui. Parce que Bruce Lee, en principe, devait faire le sidekick dans Batman au départ, et puis bon, ça a été refusé. Et il y a également, je crois, Guy Williams, Zorro, donc, qui ouvre également la fenêtre.
Je l'ai pas vu, mais par contre, il y a le grand acteur de la famille Adams. D'ailleurs, on le comprend que c'est la famille Adams parce qu'ils mettent la musique et puis il fait bon, il parle. Donc le grand acteur qui fait aussi la chose d'ailleurs. Donc ce qui fait que c'est un double caméo. On mettra ça le lien dans le site suppléantweekend.fr. Mais en attendant, va peut-être passer une programmation musicale.
Attends,
pour passer
je termine avec les séries vite fait là quand même, parce que il y a pas de série inédite, mais par exemple il y a la rediffusion de séries aussi séries inédites, c'est FBI Duo très spécial dont je vous avais parlé ici.
Et sur la 6 non
non pas du tout quoi, c'est sur Série Club et là il s'agit de la saison 3 qui est diffusée, saison 3 qui n'avait pas encore été diffusée sur une chaîne française, donc série complètement inédite, c'est mercredi prochain à partir de 20h45. Sinon rediffusion par Teva de cette excellente série qu'on avait vue sur M6 le jeudi soir, The Good Wife, avec le retour de Julian Margulies, Chris Noth, mais vraiment une très très bonne série, très bien écrite hein. Au départ on peut peut-être rester un petit peu froid devant la série qui a un petit peu de mal on va dire à démarrer, mais une fois que la série est bien lancée ben il n'y a pas de problème, on prend beaucoup de plaisir à la suivre avec son sa double histoire en fait, même sa triple histoire en fait hein, puisque bon on règle les affaires courantes, The Good Wife, Julianne Margulies doivent se faire un nom parce qu'elle est obligée de recommencer à travailler, et en même temps il y a le fil rouge, c'est les affaires graveleuse de Chris Noth, son mari, donc c'est pas mal, c'est vraiment très très bien écrit, donc si vous n'avez pas vu cette série à l'occasion sur M6, c'est sur Teva, donc à partir de demain soir, dans l'ordre bien sûr, à demain soir sur Teva, Good Wife à 20h40. Vite fait, un téléfilm hein, qui sera diffusé sur 13e rue mercredi prochain. C'est d'après les romans de Michael Dibdin. Alors Michael Dibdin est un auteur anglais qui a fait plusieurs bouquins à la manière de. Alors il nous a fait un Sherlock Holmes, il nous a fait un Agatha Christie, et il a fait d'autres auteurs comme ça anglais. Mais à la manière de, c'est écrit à la manière avec le même style et tout. Mais il a également popularisé un inspecteur un petit peu spécial hein, qui s'appelle Aurorius Zen. Donc déjà ça tranche. En plus c'est un téléfilm anglais tiré donc d'un de ses bouquins très récent hein, de l'année dernière de John Alexander, et ça ne se passe non pas en Angleterre mais à Rome, avec Rufus Sewell, Catherine Murino, Callum Lou et Julie Cox. Donc Zen, un téléfilm diffusé sur 13e rue mercredi prochain, donc à 20h40, 20h35. Allez, un petit peu de musique à présent.
Allez, tire-moi un dé.
Alors le 13, bah je disais 13e rue, le 13 alors.
Alors 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, et merde, 9, 10, 12, 13. Beaux-Arts, Sheraf, Orchestra. C'est pas super lisible comme
non, non, mais c'est pas grave.
Dommage. C'est un petit peu dommage. Vladimir Beaux-Arts, voilà. Et le premier titre en français. Le premier titre en français. Ah punaise, en plus c'est pas dans l'ordre. Oh le petit rigolo. RSS Master. Non, non, non. Super Mythoman. Allez. Ça ira très bien après Charlie Sheen.
Up the leaves and say, Trop maladie, un jour on petit. Sac avec un petit toqué, sac avec un écho. Moi personnellement je n'ai jamais relevé le sens des mots. Diffuser les ailes, paroles limites, un mensonge de philo. Fut le premier à poser le pied sur la lune, en soi sans cesse. Découvrir l'Amérique asie, aussi il en le massif. Papi, il est trop fort. Son prochain voyage c'est dans
Ça doit être une sacrée performance à jouer sur scène, ça, quand même. C'est sur le label Le Chant du Monde, chez Harmonia Mundi, d'ailleurs. Donc, ça s'appelle Super Mytho. Et là, effectivement, point de vue programmation musicale, c'est de la mytho. Vladimir Bozard, and the Sheriff Orchestra. Chouette boulot. Au hasard.
Ah ouais, ah ouais. Comme quoi. Hein.
Supplément week-end numéro 311. Toujours du sport à la Zapette.
Ouais, à la Zapette avec donc les films cette semaine, tout et n'importe quoi, de toute façon, comme d'habitude. Avec ce soir sur Canal Plus, La Proie. Alors ça, c'est un peu con parce que bon, c'est un film que dont Thomas nous avait parlé, hein, qu'il était allé voir et qu'il avait chroniqué. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la chronique certainement sur le site de Filmatom.
Ça fait chier, je serais en train d'enregistrer la vie des autres en même temps.
Alors,
ah oui, on a Canal Plus gratuit.
Alors, La Proie, donc, d'Éric Vallette, avec Dupontel, Taglioni, bref, bon petit polar. Sur Arte, alors, toujours dans la lignée de ces documentaires pop culture. Hein, alors, Christopher Lee, la semaine dernière, c'était magnifique, tout simplement. Hein. Vraiment, ouais. Le document en plus mis à jour avec les derniers trucs de Christopher Lee, tout toujours vert le bonhomme, pratiquement 90 balais et puis il y a toujours la patate, hein. Excellent quoi, excellent donc. Et là cette semaine, eh bien c'est un autre vampire, mais pas que. Hein,
Bela Lugosi ?
Non, pas du tout, pas du tout. Il s'agit d'un documentaire qui s'appelle Moi Je. De Jérémy Fekete, qui date de 2011, donc l'année dernière, et qui concerne Udo Kier. Ah ah, qui est Udo Kier? Alors, si tu regardes bien, tu reconnais sa tronche, parce que c'était quand même l'un des boss des vampires dans Blade. C'est également un acteur qui a beaucoup joué dans les années 70 dans les films underground d'Andy Warhol, par exemple, hein, de Joe D'Alessandro. Je crois qu'on le voit
d'accord.
Également dans
Udo Kier, Udo K-I-E-R.
Voilà, voilà.
Ok.
Oui, oui. Bah, il, parce qu'il est un petit peu germain. Germain, tu vois, c'est pour ça, quoi. Alors, Et donc, il a un visage très remarquable, de toute façon. On le repère de loin. Et il est un petit peu catalogué dans ce genre de rôle. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est quand même un mec qui a fait des films, qui a fait plus de 250 films. Donc, bon.
Ah oui, okay, Dracula hein. 3000.
Oui,
Earth
oui,
Space.
Non, mais bon, il est surtout spécialisé dans des bouses innommables. Ah, ça n'y a pas
c'est
de problème.
Armageddon, il fait le psychologue.
Oui, mais comme le disait justement Christopher Lee la semaine dernière et tout quoi. Bon, j'ai eu des moments très difficiles.
Oh non.
J'ai eu des moments très difficiles, mais il fallait bien que je fasse vivre ma famille. Et là, tout s'explique. Hein. C'est pas compliqué de toute façon. Alors donc, c'est ce soir sur Arte à 22h30. Donc moi je avec Udo Kier, donc documentaire sur cet acteur. Sur RTL9 ce soir à 20h40, on parlait du Rat Pack juste avant. Eh bien, deux membres du Rat Pack dans ce western de 1966 qui s'appelle Texas Nous Voilà de Michael Gordon.
Oh merde, j'aurais su, j'aurais pris mes disques.
Ouais, Dean Martin et Joey Bishop donc. Alors Joey Bishop, c'est le moins connu hein, des membres du Rat Pack. On connaît bien Dean Martin bien sûr, on connaît bien Sammy Davis, Peter Lawford hein, qui était le beau-frère du président Kennedy. Et on connaît moins Joey Bishop, qui pourtant faisait partie du Rat Pack. Hein. Et Sinatra, en fait, n'était pas un membre du Rat Pack, comme on l'appelait au départ. Mais comme il était très pote avec eux et qu'il faisait souvent la bringue avec
en
eux,
fait,
il a été assimilé.
Ils étaient dans deux casinos différents, mais tous les soirs, ils se retrouvaient pour les beuveries. Ils se retrouvaient ensemble.
Voilà, et Sinatra est un petit peu à l'écart parce qu'à l'époque, il avait plus d'histoires d'amour, on va dire, un petit peu tumultueuses. Et donc, il s'occupait plus de ça que des fêtes avec ses potes, voilà. Donc pour Joey Bishop, ça c'est donc c'est ce soir sur RTL 9 le western du samedi soir, Texas Nous Voilà avec Alain Delon et Dean Martin. Là c'est rigolo. Ça peut être rigolo hein, on sait jamais quoi. Et là il était jeune hein, 1966, Delon très jeune donc. Dimanche, demain sur Arte, dans la théma, c'est une théma grecque, Ulysse, un péplum de Mario Comencini, pas Comencini, Camerini en 1954 avec Kirk Douglas, Anthony Quinn, Silvana Mangano.
Ah oui, pas mal.
Bon, alors il est pas extraordinaire, mais il se laisse quand même bien regarder, hein, ça y a pas de problème. On parlait de Delon avant, eh bien, un des films qui a fait monter et qui a fait que Delon est devenu pratiquement un mythe, c'est sur 13e rue demain soir à 20h45. Alors beaucoup de gens qui disent oui, je cite tel film, et bon généralement en plus des fois ce sont des gens qui n'ont pas vu le film mais qui ont lu tellement de trucs dessus qu'ils se disent ok, il n'y a pas de problème et tout. C'est le Samouraï de Jean-Pierre Melville avec Nathalie,
grand classique,
qui, oui qui, avec Nathalie, c'est le premier film que Delon et Melville ont tourné ensemble. Et un film qui est bon, bah même John Woo, hein, il s'en réclame.
John Woo a d'ailleurs offert, je crois, un flingue d'un film à Delon parce que il s'est référé directement, quoi.
Ouais. Et que Alain Delon est un dieu en Asie, quoi. Tout le monde le sait de toute façon. Il y a également François Perrier, donc dans Le Samouraï, d'autres seconds rôles excellents. Ça c'est demain soir sur 13e rue à partir de 20h45 sur Ciné Plus Classique. Là c'est un des chef-d'œuvre du cinéma, on peut le dire, La Dame de Shanghai d'Orson Welles, avec Orson Welles, Rita Hayworth et Everett Sloan. Alors là, bon, bah ok, hein, si vous voulez savoir comment on construit un film et comment un film tient debout du début jusqu'à la fin avec pas grand chose, hein, vous regardez ce film et vous allez tout comprendre. C'est pas la peine de foutre des explosions et des gunfights et des poursuites de bagnoles, tout ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Si, au décérébré, ça sert à quelque chose, c'est tout. Donc La Dame de Shanghai, c'est sur Ciné Plus Classique demain soir à 20h40. On a également on a parlé de Christopher Lee, ben demain sur FX à 21h, Les Cicatrices de Dracula de Roy Ward Baker. Alors ça c'est un film de la Hammer avec Christopher Lee, mais c'est la deuxième partie. Ça y a la première partie, c'est le début des années 60 où il y a toutes ces histoires de tous les films de la Hammer qui sont devenus
grand
des classiques,
l'invasion des profanateurs et tout ça.
Voilà. Et Christopher Lee au bout d'un moment, il se dit bon, ça commence à bien faire tourner Frankenstein, Dracula et tout ça, comment j'aimerais faire autre chose. Hein, il le dit d'ailleurs, un docu de la semaine dernière, et donc il largue la Hammer hein, pour tourner d'autres films, Underground,
Fu Manchu,
n'importe quoi. Et bon, bah, il se dit que les pépettes ça fait quand même bien. On lui tire par la chemise pour lui dire reviens nous faire un petit Dracula. Il va en refaire encore deux ou trois, dont Les Cicatrices de Dracula, qui est son retour donc au cinéma horrifique et au cinéma avec la Hammer. Il fera également le plus mauvais Dracula de la série des Hammer, qui s'appelle Dracula 73. Alors celui-là,
ah oui,
celui-là c'est quelque chose.
Pour un jour le passer à la Cinémathèque, c'est une leçon.
Ah ouais, non mais ça vaut le coup quand même, quoi. Alors Orange Ciné Géant demain soir vous propose Avanti de Billy Wilder en 72 avec Jack Lemmon, Juliette Mills. Alors, un film qui est vraiment très sympathique, toujours dans la veine un petit peu légère, mélodramatique, on va dire, de Billy Wilder. Et là, ce qui est intéressant, c'est surtout la performance de Jack Lemmon et le fait que le film se passe à l'extérieur pour l'ensemble du casting, y compris le réalisateur, parce que ça se passe en Italie. Et d'où le titre Avanti, hein, c'est ce qu'on dit, entrée. Avant... Entrez quand vous êtes dans une chambre et quelqu'un frappe à la porte, vous dites Avanti, entrez. Donc en fait, ça raconte l'histoire de Jack Lemmon et de Juliette Smith qui se retrouvent dans cet hôtel, qui ne se connaissent pas, mais qui vont chacun enterrer un proche. Donc, et ils vont se réunir. Alors bon, c'est pas mal, c'est assez fou furieux comme Billy Wilder aime bien le faire. Et Billy Wilder, je crois juste après ce film ou deux films plus tard, c'est lui qui faisait quand même La Vie Privée de Sherlock Holmes. Qui est quand même un des monuments, on va dire, dans la
c'est une immense parodie, ouais.
dans la filmothèque de Sherlock Holmes. Hein.
Ah oui, c'est clair.
Là, il y a pas de problème. Clair. Lundi sur Arte. Alors, le premier film, le film de prime time, c'est un film français. Mais après, un film de Coppola. Que pareil, moi je dis, il y a pas grand monde qui l'a vu ce film, hein, parce que bon, on connaît bien entendu Le Parrain, on connaît tous les films de Coppola par la suite. Mais celui-là, bah, qui est tourné juste après. Le Parrain, le premier, eh bien, qui obtient le grand prix, la palme d'or du Festival de Cannes, c'est Conversation secrète avec Gene Hackman, une histoire d'espionnage, d'écoute. Bon, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est quand même un film qui est vraiment excellent, avec donc Gene Hackman, Frederick Forrest, John Cazale, entre autres. C'est lundi sur Arte à partir de 22h30. Sur TPS Star, bah justement, on en profite parce que c'est jusqu'à mercredi prochain. Extinction de cette chaîne TPS Star, et bien à 20h40 Mords-moi sans hésitation du duo Jason Friedberg et Aaron Seltzer. Ça te dit quelque chose? C'est eux qui nous avaient fait Spartatouille. Et
oui,
là, Spartatouille quoi. Et là, ils nous font Mords-moi sans hésitation. Alors toujours le film
parodique.
Et là, il s'agit bien entendu de la série de Twilight avec Jane Proskay, Matt Lanter et Diedrich Bader. Sur RTL9, lundi, il y a Spartacus de Kubrick.
Ouais, oui.
Bon, hein. Mardi, NRJ 12 vous propose les trois royaumes de John Woo avec Tony Lungchu White, Takeshi Kaneshiro, Chang Chen et tous les autres. Un bon film. Donc, 13h, pardon, pas 13h, 13e rue à 20h45, le premier film de Michael Mann, Le Solitaire avec James Caan, Tuesday Weld, Robert Prosky, James Belushi, pas John. Et sur Comédie, mardi, c'est une soirée spéciale Mocky. Avec trois films donc de cet auteur. Le Bénévole tout d'abord en 2006, qui est un des derniers films de Michel Serrault, le dernier film de Michel Serrault, la collaboration avec Mocky. Ils ont quand même tourné 11 fois ensemble, hein, ce qui
c'est
est pas mal.
Hein.
Je pense que si Bourville avait vécu plus longtemps, il aurait battu ce score. Ça n'y a pas de problème parce que c'était un des acteurs fétiches de
Mocky,
au début de la carrière de réalisateur de Jean-Pierre Mocky. Donc, mais outre le Michel Serrault dans Le Bénévole, on a Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, Bernard Farcy. Ce qu'il y a de bien avec Mocky, c'est que des fois, souvent, il fait des films qui sont assez pourris, qui sont pas terribles, où on passe du coq à l'âne, la fin est
Et bancale.
Tu vois bien qu'il y a des raccords qui sont pas terribles, mais bon, ok, quoi, c'est fait avec des bouts de ficelle. Mais il y a toujours un casting d'enfer dans ces films. Alors là, toujours dans tous les films de Mocky, il y a toujours un casting où t'as le meilleur de ce qu'on peut prendre comme acteur, français, bien entendu. Alors après Le Bénévole à 22h10, Les Saisons du Plaisir de Mocky en 88. Alors celui-là est vraiment excellent quand même, avec Charles Vanel, Denise Gray, Jean-Luc Bidault et Jean Poiret. Alors là, pratiquement que des morts. Enfin, surtout Vanel et Poiret d'ailleurs. Et à 23h45, le film le plus récent de Mocky, Crédit pour tous, qui date de l'année dernière. Donc dernier film tourné par Mocky, c'est sur Comédie. Mardi prochain sur TCM à 20h40, L'homme aux mille visages de John Pevney en 1957 avec James Cagney, qui rend hommage à celui qui a interprété plein de rôles inquiétants et qui a été un des précurseurs de Christopher Lee. Puisque avant Christopher Lee, qui c'est qui jouait les Frankenstein et tout ça, il y avait Boris Karloff. Avant Karloff, qui c'est qui avait Bela Lugosi, bien entendu. Mais avant Bela Lugosi, Lugosi également commençait par le muet, mais il y avait un acteur qui faisait que du muet, Lon Chaney. Et c'est donc un film hommage à Lon Chaney, interprété par James Cagney, qui reprend le rôle. Donc, alors là, on se dit, il n'y a pas de problème, on achète tout de suite. Dorothy Malone, Jane Greer, donc, dans ce film de 1955 de John Pevney qui s'appelle L'homme aux mille visages. Sur Orange Ciné Choc, toujours mardi prochain, The Insiders de Dante Lam avec Nick Chung et Nicolas Tse. histoire d'un type qui se fait mettre en prison exprès pour déjouer des complots maléfiques, et suivi par l'excellent film d'Andy Lau, Infernal Affairs, dont on a longuement parlé ici, mais c'est normal, c'est un excellent film. Mercredi, généralement mercredi c'est le jour de la bouse, mais là pas tellement, si, il y en a quand même une sur RTL9. C'est à 20h40 en sursis de Andrew Bartkowiak avec Jet Li, Anthony Anderson, Kelly Yu, Tom Arnold, Mark Dacascos, mais c'est quand même une bouse. Marie Première vous rediffuse.
Sans pitié, hein.
Vous rediffuse. Ouais, je l'ai en DVD en plus, quoi, tu vois, pour te dire quoi. Paris Première vous rediffuse, et là c'est une bonne nouvelle parce que pour ceux qui l'avaient loupé, ça vaut le coup. C'est la série de téléfilms Jesse Stone de Robert Harmon à la réalisation, mais avec Tom Selleck dans le rôle titre, donc Stephanie March, Stephen Baldwin, Saul Rabinek, bref. Ça, c'est vraiment quand même du haut de gamme, on va dire, hein, l'histoire de ce flic.
D'excellents téléfilms.
Ouais.
À côté, même, je suis très déçu de l'écriture et du montage finalement de Blood Bloods.
Blood Bloods, la nouvelle série de Tom Selleck.
Ouais, parce que pour moi, à chaque fois, je parle de Jess comme étant la référence justement de ce qu'est capable de faire. Enfin, quand même, il a 67 ans. Hein.
Ouais.
Et il le fait.
Ça va, il se maintient bien.
À mon avis, beaucoup de surf sur les îles Hawaï.
Ah, peut-être. Alors, mercredi également sur Disney Cinemagic, un film d'animation danois de Thomas Borch Nielsen qui s'appelle Barry, le roi du disco.
Alors, de la part du Danemark, mais je suis pas
alors
étonné.
C'est l'histoire d'un ver de terre, hein, qui est carrément méprisé par ses congénères et qui un jour découvre un disque de musique disco ayant appartenu à son père. Et du coup, il décide de participer à un concours de chant. Alors, je vous laisse deviner, un ver de terre qui va participer à un concours de chant. C'est sur Disney Cinemagic mercredi prochain à 22h20. Sur Orange Cinémax, on a une soirée documentaire, mais qui va être carrément excellente, car elle concerne Pierre Karl, l'homme qui nous a fait Pas vu, pas pris en 98, et ça s'est diffusé à 20h40, suivi de 4 ans plus tard de Enfin pris, et qui raconte un petit peu, c'est un documentaire qui raconte un petit peu la collusion qui existe
entre les politiques et les journalistes, et on est en plein dedans,
et là vraiment vous regardez ça et après vous continuez à regarder la campagne présidentielle avec les interviews et là vous allez tout comprendre, vraiment vous allez vraiment tout comprendre. Et il faut dire que ce film d'ailleurs a été pas interdit, mais enfin bon, on a refusé de le diffuser tout simplement. C'est-à-dire que il est passé à l'as. Il a pu être diffusé dans des salles de cinéma d'art et essai, genre Utopia, des trucs comme ça, c'est-à-dire des salles de cinéma indépendantes, mais aucun réseau Gaumont, Pathé, tout ça n'a voulu de ce film documentaire.
Hein. Non, le documentaire, ça intéresse personne, personne n'est concerné.
La chose est également vraie pour la plupart des chaînes de télé.
Au départ d'ailleurs, je crois qu'il était prévu d'une diffusion télé. Hein.
Oui, mais c'est sur Orange Cinémax hein, pour l'instant, quoi. Donc, alors c'est donc mercredi prochain à partir de 20h40, soirée Pierre Karl. Donc, jeudi sur France 3, L'Armée du Crime de Robert Guédiguian avec Simon Abkarian, Virginie Ledoyen, Robinson Stevenin et Virginie Ledoyen. Donc, l'histoire de l'Armée Rouge. L'affiche rouge, hein, le réseau Manoukian.
Seconde
Guerre mondiale, et donc les premiers résistants qui sont en fait des étrangers, c'est même pas des Français, te rends compte, c'est même pas des Français qui ont commencé à nous défendre pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est une honte. Donc c'est jeudi prochain sur France 3, et je crois que c'est le premier film depuis pas mal de temps de Guédiguian où ça se passe pas à Marseille parce que tous ses autres films c'est sur Marseille, c'est normal, il est du coin. Jeudi prochain sur NT1, Piège, après La Mer, eh bien on prend le train, Piège à grande vitesse, Steven Seagal dans un train, de Jeff Murphy avec Everett McGill, Catherine Heigl, Greg Bogosian, Nick Mancuso, c'est bien, ça débourse, c'est pas mal, c'est sympa, c'est moins bien que l'autre, moi je trouve, quoi. Hein, l'autre c'était quand même plus fun, quoi. Mais bon, il est encore en pleine forme, le père Seagal, dans ce film. Donc, ça vaut le coup. Sur TCM, jeudi prochain, Il était une fois en Amérique. Donc Sergio Leone.
Immense classique, à regarder de bout en bout.
Et sur la chaîne Polar, Lucky Luciano. un film italo-américain.
Lucky la chance. Je sais plus comment on le disait d'ailleurs. Lucky la chanceur.
Le chanceux hein, de Francesco Rosi en 73 avec Gian Maria Volonté dans le rôle titre et également Rod Steiger, Edmond O'Brien. Ben c'est un film qui est très intéressant parce que ça nous raconte une histoire qui est très proche de la réalité concernant Lucky Luciano. Ce n'est pas romancé, non, et c'est interprété vraiment nickel de la part de Gian Maria Volonté, qui est vraiment un excellent, excellent acteur. Jeudi, toujours sur la chaîne Action à 20h40, un petit polar sympathique par le premier film d'ailleurs du scénariste de Usual Suspect, Christopher McQuarrie, Way of the Gun, avec Ryan Phillippe, Benicio Del Toro, James Caan, Juliette Lewis et encore beaucoup d'autres. Un bon petit polar hein, qui a une petite tournure western sur la fin, la tuerie finale quoi, mais qui est vraiment très très bien. Enfin, sur Orange Cinéchoc jeudi prochain à 20h40, Dossier K, d'un film belge de Jan Verheyen qui raconte des histoires de guerre de gang albanais dans une charmante contrée belge, avec Koen De Bouw qui est un excellent acteur belge qu'on avait vu dans un autre film pas mal dont je me souviens pas du titre, et également dans une série qui s'appelle Affaires Classées comme Cold Case hein, pareil.
Oui, c'est le même principe ouais.
Mais qui se passe en Belgique et qui était vraiment assez intéressante. Donc jetez-y un œil, c'est sur Orange Cinéchoc jeudi prochain à 20h40, Dossier K. On termine avec vendredi prochain sur Canal Plus Cinéma, Essential Killing de Jerzy Skolimowski. Il est encore vivant ce mec faisait déjà des films dans les années 60 et il était un petit peu à l'origine de la nouvelle vague hein, du cinéma européen hein, en particulier. Il est polonais et il nous avait fait Deep End par exemple, qui avait beaucoup marqué à l'époque par sa liberté graphique, par sa liberté sexuelle, faut le dire. À l'époque c'était vraiment un film très très osé, et ce film est d'ailleurs ressorti il y a pas si longtemps que ça, l'année dernière me semble-t-il, dans des copies neuves et tout, et rediffusé en salle hein, pour marquer un petit peu le truc. Et Jerzy Skolimowski donc continue à tourner, et ce Essential Killing date de 2010, et c'est l'histoire d'un Afghan poursuivi par des soldats américains hein, donc une espèce de chasse à l'homme interprété par Vincent Gallo, Emmanuel Seigné entre autres. C'est un film qui vaut le coup, à 20h40 donc sur Canal Plus vendredi prochain. On a également sur RTL9 vendredi prochain Beetlejuice de Tim Burton.
Ça fait assez peur.
Un film également sur Direct 8, 20h45, un petit peu dans l'actualité, même s'il commence à sentir le renfermé. C'est Le Sniper de Washington. Ouais, une histoire vraie hein, bien
oui,
sûr,
oui,
hein.
Qui s'est déroulé il y a 4 ans.
Non, plus longtemps hein, puisque le film date de 2003 donc
ah putain, il y en a eu plusieurs.
Remonte, ça... oh, oui. Non, c'est ce fameux là, celui qui
apprenait à son gosse à tirer à travers le trou dans la malle de la voiture, non ?
Voilà. Ouais. Donc avec Charles Dutton, Jay Ossanders, un film de Tim McLaughlin de 2003 sur Cinéfrisson vendredi prochain. C'est un spécial Guy Ritchie avec 3 films. Tout d'abord Snatch avec Jason Statham, Dennis Farina, Brad Pitt, Vinnie Jones. Ensuite à 22h40 Revolver avec Jason Statham toujours, Ray Liotta, André Benjamin, le mec de Hotcast, c'est le petit, pas le gros. Et enfin 0h35 Rock'n'Rolla avec Gérard Butler, mais pas Jason Statham. Disney Cinémagique vendredi prochain vous propose Un nouveau départ pour la coccinelle de Robert Peyton Reed en 97. Ouais, c'était le relaunch avec, dans le rôle du pilote de la coccinelle, Bruce Campbell, yes, et John Hanna. On a sur la chaîne Polar vendredi prochain Tueur de flics de Harold Becker avec John Savage, James Woods et Ted Danson. Ah bah ouais, pourquoi pas. Et on termine par les films habituels, c'est soit Western Spaghetti, soit Peplum. On commence par le Peplum sur FX, il avait déjà été diffusé pas si longtemps que ça, sur la 21h, Hercule se déchaîne de Gianfranco Parolini avec Bernard Harris, Mara Berry et Serge Gainsbourg. Ouais, tu vois, Serge Gainsbourg en romain, tu vas voir, ça vaut le coup, c'est nickel. Sur la chaîne Action, vendredi prochain, on a également à 21h Navajo Joe avec de Sergio Corbucci bien sûr, en 1966 avec Brut Reynolds. Ouais, facile. Alors, et c'est tout d'ailleurs pour les films de cette semaine. Et on est vachement à la bourre, hein, c'est pas vrai Guillaume? On est à la bourre, donc on va passer au sport tout de suite, pratiquement incessamment sous peu.
Voilà, c'était l'émission numéro 311 du Supplément Week-end, une émission qui a été malheureusement marquée sous le deuil de l'absence de Thomas, qui reviendra la semaine prochaine avec du sport. Et aussi, malheureusement, l'obligation de diffuser des quotas de chansons francophones. Et je crois que l'on a atteint notre quota de chansons. Comme ça, on a la paix. Et j'avais pas fait de blague pour le 1er avril, je me rends compte. Oh nom de Dieu. Une catastrophe. Mais si vous avez manqué tout cela, parce que évidemment il y a eu de la BD gore et il y a eu de la BD de western avec une chouche et vraiment fantastique, si vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi relire nos chroniques, comme par exemple l'enfant insecte que l'on a chroniqué la semaine dernière, le semeur d'étoiles, mais aussi aller sur les liens qu'on vous propose, bien évidemment, parce que c'est plus facile que de dire à l'antenne, nous écrire, n'hésitez pas. Laissez vos commentaires, il suffit d'aller sur le site supplementweekend.fr, et d'ailleurs on passera justement l'interview qui dévoile un petit peu ce qui passe dans le justement dans la production du Supplément Weekend. On fera un lien vers le podcast de Niark et les causeries de Niark et Capucine. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM sur 89.1. Et nous sommes en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur fradio-fmr.net. Dans le prochain épisode, je ne sais pas ce que Thomas et Dusport ont prévu, mais à mon avis, ça devrait pas être mal. Donc on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. En attendant, de suite, c'est Dusport.